Chapitre 2. Étienne Marcel, 1358, Paris s'éveille. La nouvelle a bouleversé les Français. En ce mois de septembre 1356, le roi Jean le Bon Valois s'est incliné devant les Anglais à la bataille de Noyers-Maupertuis près de Poitiers. Pis encore, il est leur prisonnier. Tandis qu'on l'emmène captif jusqu'à Londres, le poids de sa couronne échoit à son fils aîné, Charles, promu lieutenant général du royaume. Le dauphin de France, il est le premier à porter ce titre, n'a pas 20 ans. Isolé, démuni, privé de ressources dans une période de pénurie, que pourra bien décider un si jeune prince? S'inspirant de la décision prise l'an précédent par son père, il commence par convoquer les États généraux et reçoit les députés des trois ordres à Paris dès le 17 octobre. Début d'une crise de régime. Les États commencent par subordonner l'octroi de tout nouvel impôt à l'établissement d'une charte qui n'est pas sans rappeler, dans son principe, la Magna Carta, la Grande Charte, imposée par les barons d'Angleterre à leur roi en 1215. Les députés refusent du reste d'en discuter avec les émissaires choisis par le dauphin. Ils exigent par ailleurs, en échange de l'armement de 30 000 hommes, le renvoi d'une kyrielle de conseillers royaux et vont jusqu'à réclamer la libération de leur soutien naturel, Charles de Navarre, dit Charles le Mauvais, gendre de Jean le Bon, enfermé naguère par celui-ci pour intelligence avec les Anglais. Le jeune dauphin, fort habile en dépit de son inexpérience, se garde bien de protester contre des atteintes aussi criantes à son autorité naissante. Il se montre évasif pour mieux ajourner sa réponse. En vérité, pour trouver de quoi survivre, il aura plutôt recours à la dévaluation monétaire, mais, conscient de l'extrême impopularité d'une telle mesure, Charles a pris soin de quitter Paris quelques jours avant son annonce à la population. Il a trouvé refuge à Metz, chez l'empereur, dont la souveraineté s'étend alors aux trois évêchés, Metz sera terre d'empire jusqu'au traité de Münster, c'est-à-dire jusqu'au milieu du XVIIe siècle. À Paris, le peuple, mais aussi les bourgeois, petits et grands, surtout grands, s'étranglent de rage. Le prévôt des marchands va jusqu'à défendre aux corporations d'accepter la monnaie dévaluée. Qui est ce prévôt ? Le haut personnage chargé de la police et de la justice entre marchands, des règlements civils de la capitale, de la circulation fluviale à l'intérieur de ses murs, etc. Un élu des corporations, en somme, qui se regarde comme le défenseur des intérêts privés et fait figure d'ancêtre des maires de Paris. Son nom, Étienne Marcel, un riche marchand drapier d'une petite cinquantaine d'années, allié au milieu de finances et très remonté contre la royauté et ses décisions arbitraires. Le prévôt Marcel sait bien qu'il peut compter, dans le bras de fer qui se dessine avec les Capétiens affaiblis, sur le soutien énergique, éloquent même, de Robert Lecoq, l'évêque de Laon, un ambitieux qui, dans l'ombre, intrigue au profit de Charles le Mauvais. Ce sont ces deux hommes d'influence et d'expérience que va devoir affronter le jeune dauphin lorsqu'il rentre à Paris. Le 14 janvier 1357, la Révolution couve. Comme préalable à toute entente, Étienne Marcel réclame des réponses écrites de Charles sur le renvoi de ses conseillers et sur l'annulation du titrage monétaire dévalué. Il exige aussi la convocation pour février de nouveaux États qui, siégeant avec passion, adresseront à la couronne une soixantaine de requêtes. Dès lors, la question se pose, une monarchie constitutionnelle serait-elle en train de se faire jour dans la France médiévale? À la lumière des événements, on serait en droit de le penser. Le 3 mars, une grande ordonnance de 61 articles est ainsi concédée par le dauphin Charles, texte inouï, sidérant l'Europe entière, consacrant la souveraineté des États généraux, et fort peu admissible pour le roi prisonnier qui se tient informé depuis sa geôle anglaise. Sa réaction ne se fait d'ailleurs pas attendre. Mettant les contribuables dans son camp, Jean adresse à ses sujets une lettre fameuse par laquelle il s'oppose à toute nouvelle levée d'impôts. Il en profite pour frapper de nullité la grande ordonnance et interdire toute nouvelle réunion des États généraux. La sédition pourrait s'arrêter là, mais ce serait mal connaître Étienne Marcel et Robert Lecoq et ce serait sous-estimer leur détermination. Entrant ouvertement en désobéissance, le prévôt et l'évêque convoquent les États, on ose encore écrire l'Assemblée, pour le 30 avril. Paris entre donc en révolution. Comme toujours en ces moments sensibles, tout va dépendre de l'attitude de la population. que les Français suivent Marcel en masse et s'en sera fini de la dynastie des Valois, voire de la monarchie capétienne, que certains, nombreux, hésitent et le dauphin aura encore quelques coups à tenter. Or, en 1357, c'est de ce côté-ci, celui de la loyauté au pouvoir royal, que va plutôt pencher le fléau de la balance. Les trois ordres convoqués aux États généraux sont loin d'être prêts à s'entendre. La noblesse fait la sourde oreille aux incessants appels de l'évêque de Laon. Le clergé vient de bénir la lettre qui l'exonère de tout paiement d'impôt au roi Jean. Quant au tiers-état, il est divisé entre une courte majorité d'éléments insurgés et une forte minorité de sujets loyaux. C'est alors qu'avec un opportunisme étonnant, laissant deviner le grand roi qu'il s'apprête à devenir, le dauphin Charles saisit sa chance et reprend en main les rênes de l'État. Ainsi, les fantasmes de prise du pouvoir nourris par certains n'auront été qu'un feu de paille, pour le moment du moins. Très vite, le jeune prince doit prendre de nouveau ses distances avec la capitale, mais quand il y reviendra, car Paris demeure bel et bien le centre de gravité de son royaume, ce sera pour constater un désordre général. Nouvelle inquiétante, on apprend à la cour que Charles le Mauvais, bénéficiant de haute complicité, est parvenu à s'enfuir de sa prison d'Arleux. Le prince rebelle fera sans tarder une entrée tapageuse dans Paris, portée en triomphe par la population et soutenue par des troupes nombreuses et entraînées, occupée bientôt aux côtés des Anglais à ravager la Normandie. C'est alors que le dauphin, réagissant d'une manière stupéfiante pour le XIVe siècle, choisit de prendre part en personne au débat public. Après tout, Robert Lecoq a souvent pris la parole devant les Parisiens. L'auguste fils et héritier du roi de France ne se considère pas en reste. Il va se jeter dans la mêlée à son tour. Charles vient donc aux Halles haranguer la foule, non sans talent d'ailleurs, et même à en croire la chronique, avec assez de feu et d'ardeur. Le lendemain, Étienne Marcel lui répond à la même tribune. Peut-on parler du premier débat contradictoire de l'histoire de France ? Probablement. 22 février 1358, après qu'une maladresse de la justice royale a mis le feu aux poudres, Paris, une fois de plus, se soulève contre le Valois. La foule, conduite par Étienne Marcel, s'est frayée un chemin vers l'intérieur du palais de la cité jusqu'au dauphin Charles en personne. Les maréchaux de Champagne et de Normandie, Jean de Conflans et Robert de Clermont, sont aussi sous ses yeux pour avoir prétendu le protéger. Et dans un geste que certains veulent imaginer protecteur, mais qui demeure bien humiliant pour le détenteur légitime, même par délégation d'un pouvoir de droit divin, le prévôt Étienne Marcel prie le prince fébrile exsangue de se coiffer pour sa sauvegarde d'un chaperon aux couleurs de la capitale insurgée. Où l'on ne peut s'empêcher de songer au bonnet phrygien revêtu par Louis XVI un certain 20 juin 1792. Contrairement à son lointain successeur, le dauphin parvient cependant à se faufiler hors de la capitale le 27 mars et à gagner Sens, puis de là, la Champagne. C'est après son départ que s'organise sous l'impulsion d'Étienne Marcel cette commune de Paris qui entend en découdre avec la royauté. Certains termes, certains précédents sont chargés de puissants échos, réquisitions, confiscations, levées de recrues mettent Paris en émoi. Faisant feu de tout bois, Marcel prend en avril la décision de s'allier avec des paysans insurgés du nord du royaume, les Jacques, eux-mêmes placés sous la houlette d'un chef Guillaume Carl. Il fait appeler aussi Charles le Mauvais au secours de Paris, va jusqu'à prendre langue avec les Anglais et assume si bien tous ses choix qu'au sein même de son camp, nombreux sont ceux qui commencent à douter du bien fondé de son action. Ironie de l'histoire, le Navarrais va se retourner contre les Jacques et entrer dans Paris en défenseur de l'ordre. Se voyant déjà roi de France, il ne pouvait tout de même asseoir un règne à naître sur le désordre des provinces. À la tête de 30 000 hommes, le dauphin Charles se présente alors à l'assaut de sa capitale insurgée. C'est l'acte de majesté qu'attendait la majorité silencieuse des Parisiens. N'écoutant soudain plus les harangues ni les exhortations d'Étienne Marcel, la population se met à persécuter spontanément les Anglais venus renforcer la commune. Après le flux, le reflux. Le 31 juillet 1358, le prévôt lui-même est pris en chasse par tout un groupe de boutiquiers et d'ouvriers qui, armés de fortune, l'attaquent à la Bastille Saint-Antoine, dans le fond du réduit où il s'était réfugié. Il en est arraché, se trouve livré à la foule, molesté puis lynché sur place. Ainsi périt le premier en date de la longue liste des révolutionnaires parisiens. Michelet saluera en lui le représentant d'une bourgeoisie parisienne lestée par les campagnes. « Étienne Marcel, écrit-il, ne peut tenir finalement contre l'opposition des autres bourgeoisies, des bourgeoisies provinciales serrées autour du dauphin, l'épaulant, le soutenant, le poussant jusque dans Paris où il rentre en vainqueur. Étienne Marcel est tué. Tout rentre dans l'ordre. Tout se tait et s'assoupit. Un grand voile de silence s'établit. » Le triomphal retour en sa capitale du Dauphin, titré maintenant régent le 2 août, les quelques procès et condamnations qui l'accompagnent, surtout la clémence de Charles envers ceux qui la veille encore défiaient sa souveraineté, tout cela appartient à la légende des Valois. C'est déjà presque le règne de Charles V qui s'ouvre, mais ces fameuses scènes royales, complaisamment peintes et dépeintes, semblent bien impuissantes à faire oublier que, de façon durable et déterminée, l'autorité de la couronne a été défiée en France, bafouée même, insultée à maintes reprises, et ce dès 1358, au cœur même de la capitale des Capétiens, et avec l'assentiment et l'enthousiasme de quelques-uns des esprits les plus libres du temps.